arrêté avec un angle un peu différent, mais cette année, cette fois-ci, nous avons nous complété. D'abord, je suis ravie d'être là et je remercie le général Richoux de l'invitation. Je vais vous ramener au 7 octobre et parce que depuis cette date, évidemment, ça constitue un tournant dans l'histoire du Proche-Orient. À la fois dramatique pour les pertes subies par Israéliens et Palestiniens, mais aussi prometteur, puisque bizarrement, étrangement, malgré le sang qui a coulé des deux côtés, eh bien, il semblerait que ce tournant-là constitue, et constitue à l'époque et constitue toujours, peut-être une possibilité d'un meilleur lendemain. Ça semble à venir, mais ça se dessine, je m'explique. Les attaques du 7 octobre, l'attaque du 7 octobre, perpétrée par le Hamas, était préparée depuis un moment. Les exercices de préparation de ce mouvement ont été diffusés sur Telegram et d'autres applications. On mis la région complètement devant une donnée nouvelle. C'est-à-dire qu'Israël, pour la première fois, était attaqué sur son territoire d'une façon dramatique. Les civils, évidemment, n'ont pas été épargnés, femmes, enfants, mais aussi soldats, policiers, réservistes. Je me trouvais sur place juste après, évidemment, dès que le drame est arrivé, donc je suis arrivée sur place. Et c'est un énorme traumatisme qui a secoué la société israélienne. Dans le même temps, les Palestiniens eux-mêmes, c'est des Cisjordanie occupée, que Gaza nous a immédiatement été interdite d'accès. Il est toujours un très mauvais signe lorsqu'un conflit a lieu, quand les protagonistes ferment les frontières, c'est qu'il se passe des choses qui sont évidemment douloureuses. Nous sommes restés en Cisjordanie, on a rencontré des militaires israéliens, mais aussi des Palestiniens qui s'activaient pour tenter de mettre fin au carnage. Et en fait, malgré la difficulté de la situation, tous pensaient que, et bien finalement, ce carnage côté israélien, mais aussi et surtout après que les chiffres ont été multipliés par 100 et par 1000, côté palestinien, allait peut-être remettre cette question palestinienne qui empoisonne la région au milieu du débat et finalement permettre une paix durable dans la région. Parce que les acteurs que nous évoquions tout à l'heure, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, finalement, et je suis complètement d'accord avec vous lorsque vous parlez d'un syndrome ou en tant qu'à qui nous faut penser un petit peu au problème en Europe, que nous avons une puissance en tant qu'Européens, une grosse puissance économique, mais que nous sommes encore d'une certaine manière des nains politiques face aux États-Unis. C'est terrible à dire, mais c'est la réalité. Et pourtant, nous pourrions être autrement ici, et c'est la même chose au Proche-Orient. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et même le Qatar sont vus, en tout cas, par rapport à la centralité de ce conflit-là, Israël, Palestine et tout ce qui tourne autour, comme étant finalement des acteurs qui ont un peu d'argent, même beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas réellement. Je veux dire, ce sont ni une énorme puissance économique, malgré la puissance financière et cette manne pétrolière. Combien de temps il reste-t-il? Combien de décennies, finalement? Et la vision 2030, on en est encore loin. Je veux dire, ce projet, j'ai été visité en Arabie Saoudite, Neom, qui est la ville du futur, la ville des médias, elle est quasiment vide. Et donc, finalement, oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais toujours est-il que ces pays-là, finalement, sont autour de la centralité des questions, qui est la question d'Israël-Palestine, et qui, le jour où ce conflit sera réglé, il y a fort à parier que la région sera de loin pacifiée. On revient au 7 octobre. Le 7 octobre a non seulement remis au centre du débat cette question palestinienne qui avait été passée sous silence et rappelée à la communauté internationale eh bien, les résolutions de l'ONU qui auraient dû être appliquées il y a très longtemps, ce qui n'a pas été Et ça, et ça a entraîné ce que l'on a vu. Mais par ailleurs, ça a permis, et c'est ça qui est extraordinaire, une nouvelle donne, un tournant en matière de force en puissance dans d'autres pays, et notamment en Syrie et au Liban. Puisque vous avez eu au Liban, nous y étions, et nous y étions aussi, lorsque vous avez eu les attaques d'Israël contre le Hezbollah, et finalement le Hezbollah décapité en personne de son secrétaire général, le tout puissant Hassan Nasrallah. Et comme vous disiez, en Iran, les gens étaient terriblement soudés autour de leur sentiment national à cause de cette violation de la souveraineté iranienne par Israël. Je peux vous dire qu'au Liban, c'était tout l'inverse. Parce que les gens étaient fous de joie de voir Israël bombarder le Hezbollah. Un Hezbollah qui n'a fait de 20 ans, n'a fait que mettre en péril le pays, qui a imposé un État dans l'État, plus puissant que l'État libanais, plus puissant que l'armée elle-même, et pour avoir accompagné plusieurs fois nos forces françaises des casques bleus au fin fond du Sud-Liban avec les forces de la CNUL, donc, mais aussi l'armée libanaise, qui, dont beaucoup d'officiers ont été formés à Saint-Cyr, ont été formés en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, eux-mêmes tremblent face au Hezbollah. Ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas l'armement du Hezbollah. Et finalement, de voir le Hezbollah ainsi décapité alors qu'il a été montré du doigt dans les assassinats politiques, dans la crise économique, puisque le Hezbollah est aussi accusé de protéger la corruption. C'est le système au Liban qu'on a appelé MM. MM, ça veut dire milice mafia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les miliciens pro-iraniens, le Hezbollah, donc, gardent leurs armes, sont un État dans l'État, sont le bras armé de l'Iran et servent les intérêts de Téhéran au Liban, et en contrepartie, ils font un accord avec les politiciens libanais, les uns plus nombreux heureux, les autres peu regardants. Des principes de démocratie et de transparence, et en contrepartie, il protège ces politiciens quasiment mafieux, et c'est ce qu'on a appelé au Liban le système MM. Et donc, et qu'il a imposé d'une certaine façon aux banques de prêter sans cesse de l'argent à l'État libanais, dans une sorte de pyramide de Ponzi. Je ne sais pas si vous avez suivi l'énorme crise, la troisième plus grande crise financière de l'histoire de l'humanité. Et où les Libanais ont perdu toutes leurs économies. Cet argent-là, c'est l'argent que l'État a prêté aux banques, que les banques ont prêté à l'État et que l'État n'a jamais remboursé. Et finalement, eh bien, ce sont les économies des citoyens qui ont été dilapidées et les Libanais ont perdu tous leurs dépôts bancaires, pour l'instant en tout cas. À ce 7 octobre, vous avez eu un effet domino. On a pu vraiment le constater sur le terrain. C'est-à-dire que, évidemment, pour le côté israélien, c'était tout bienvenu pour Benjamin Netanyahu qui avait, au niveau interne, à faire face à de très nombreux problèmes judiciaires et que c'était une fuite en avant. D'abord parce qu'il était montré du doigt pour mal avoir protégé sa population proche de la bande de Gaza, puisque c'est une population de gauche, alors qu'il avait mis tout son poids sécuritaire dans la région de la Cisjordanie occupée pour protéger les quelques 700 000 colons qui se sont incrustés sur ce territoire en principe occupé et pour mettre définitivement en péril la solution des deux États. Deux États dit qu'il faut au moins un territoire viable pour les Palestiniens. Or, déjà, Gaza et la Cisjordanie sont séparés géographiquement, mais ensuite, si vous aviez 100 000 colons du camp où Rabin a eu le courage de signer la paix, aujourd'hui, nous sommes à 750 000. J'étais moi-même sur place. Vous ne pouvez pas, mais je vous invite à voir un de mes films, excusez-moi, je fais de l'autopromo, mais c'est tellement plus simple comme ça. Je vous invite savoir, ah non, ça fabrique d'un monstre, ça suffit sur YouTube. Et en fait, c'est d'une violence inouïe, absolument inouïe. J'ai moi-même été, pourtant, je sais, j'ai été mise en 40 ans de terrain en zone à risque, j'ai quand même l'habitude, mais j'ai été estomaquée par l'ampleur de la violence. C'est-à-dire, vous avez des colons qui, dès l'âge de 12-13 ans, sont avec des armes. Et qui tirent sur des vieilles dames, ou sur des agriculteurs, ou même sur des amis photographes, j'en ai un qui est mort comme ça. Un photographe de l'agence Amazon, donc on a dit tout, le jour où il était, qui parlait bien français, qui a fait ses études à Lille, et qui était mon fixeur, voilà, il est parti comme ça. Donc en fait, on vous tire dessus, on vous tire dessus, sans crier gare. C'est devenu invivable. Donc imagine, pour nous, presse française, comment ça peut être. Donc il y a extrêmement tendu, et j'ai même rencontré des activistes israéliens qui sont sur place auprès des Cisjordaniens pour les aider, par exemple pour cueillir des olives ou pour que sais-je, eh bien eux-mêmes sont enfermés. Eux-mêmes ne savent pas ça. Ils sont en prison dans les films que vous allez voir, si jamais vous le voyez. Vraiment, je vous invite à le voir. Il y a deux personnes, deux Israéliens, deux jeunes activistes, sûrement d'ailleurs, qui sont là pour dire on a envie, on veut la paix, on est là, on vient pour les aider par rapport à ce qu'on les laisse faire, la cueillette, etc. Mais il y en a trois autres qui n'apparaissent pas à la caméra. Vous voyez pourquoi? Ils ont déjà fait de la prison pour être venus aider à ce point-là violent. Donc vous avez ces deux territoires séparés, une discontinuité territoriale, et même une peau de léopard, comme nous l'avons déjà qualifié depuis les accords d'Oslo et notamment les accords d'Oslo 2, pour simplifier, c'est que vous avez un territoire occupé, divisé en trois parties, avec des parties qui devaient être progressivement rendues aux Palestiniens. Les deux premières catégories n'ont jamais été rendues, et la troisième qui était sous contrôle palestinien est repassée sous contrôle israélien. Il y a 600 checkpoints, en réalité, de facto, c'est redevenu un territoire occupé, avec une occupation qui se fait, il y a un grignotage territorial qui se poursuit en plus de l'occupation, c'est-à-dire que vous avez une colline en face de vous, qui vous appartient, qui a un colon mis une maison, même un grillage sur une des collines, vous perdez la colline. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a ce problème territorial gravissime et qui, à la faveur du 7 octobre, il y a eu une avancée dans la colonisation complètement décomplexée, avec des violences inouïes, justement dues au massacre du 7 octobre, qui ont été évidemment extrêmement traumatisants pour la population israélienne, mais il n'y avait plus aucune limite dans la répression, une fois. Et ce tournant-là, paradoxalement, a permis à d'autres pays de souffler, même voire de se libérer. Ainsi, au Liban, le Hezbollah a été décapité. Hassan Nasrallah a été assassiné en septembre, une année après le 7 octobre. 2023, et immédiatement après, vous aviez 50 ans de dictature israélienne qui prenait fin à la faveur justement de cet effondrement de ce bras armé, le plus puissant bras armé de l'Iran au Liban, qui était le Hezbollah, qui a soutenu le régime syrien parce que c'était dans l'intérêt de l'Iran, parce que c'était le back-office du Hezbollah, parce que tous les armes du Hezbollah passaient par la Syrie, et en 11 jours, c'était pour passer la chute du régime, en 11 jours, un régime vieux de 54 ans est tombé, avec finalement très très peu de victimes, puisqu'on parle là de quelques 140 morts. Donc, c'est absolument incroyable. Donc, le 7 octobre, finalement, si on parle de paix et des acteurs centraux de ce conflit, je ne parle pas de ceux qui aident, les médiateurs. Médiateurs, d'ailleurs, qu'il faut regarder avec plus de. Enfin, je dirais avec quand même une certaine méfiance. Hein. Je me rappelle, par exemple, qu'au Qatar, où j'ai été emprisonnée avant que nos fait pour avoir enquêté sur le financement par le Qatar d'une mosquée intégriste à Mulhouse. Et nous avons été en prison et libérés par la ministre Alliot Marie à l'époque. Le Qatar a joué un rôle auprès du Hamas absolument catastrophique. Et j'ai rencontré en Israël le contre-amiral Ami Ayalon. Ami Ayalon, qui est un ancien patron du Shin Bet, n'est-ce pas, les renseignements israéliens, et qui me disait, oui, nous pensons que le Qatar, les valises passées par nous, les valises de dollars passées pour aller financer le Hamas, l'administration du Hamas, le ministre. Évidemment, officiellement, il n'était pas écrit que cet argent allait financer des achats d'armes ou bien de plus de tunnels par lesquels ils allaient perpétrer quelques actions terroristes ou quelques agressions de l'autre côté de la barrière. Toujours est-il qu'ils se doutaient bien que cet argent-là n'allait pas seulement servir à payer les fonctionnaires. Premièrement, ce même Ami Ayalon, contre-amiral, qui se bat aujourd'hui activement en tant qu'ancien militaire pour une paix durable, m'expliquer ce que j'avais pu moi-même de facto constater dès 1994 lorsque j'entrais à Gaza dans ma voiture de Yasser Arafat suite aux accords d'Oslo, que les Américains avaient bénéficié de la mansuétude d'Israël et Ami Ayalon lui-même, militaire israélien, dit nous avons fait une erreur, nous avons tablé sur la division des Palestiniens en laissant faire ce petit mouvement religieux pensant, ne pensant pas qu'il deviendrait dangereux. Et aujourd'hui, c'est l'effet boomerang. Donc, le Qatar a financé ce mouvement, mais avec la bénédiction d'Israël, ne pensant pas du tout que cela mènerait à ce pogrom, à ce massacre du 7 octobre. Donc, toujours est-il que le 7 octobre, aujourd'hui, nous vous interrogeons sur que se passe-t-il au Moyen-Orient. Va-t-on vers la paix? Va-t-on vers la guerre, ou pire encore, ni guerre ni paix, ce qui est toujours une situation très désagréable pour les populations qui l'ont subi. Le 7 octobre, je le répète, a été un tournant, a été un traumatisme. Il a néanmoins mis les Israéliens devant une réalité, et plus encore, je dirais, les Américains devant une réalité qui avait été imposée, c'est paradoxalement, rappelez-vous, au début des années 90, par Bush. Qui avait imposé lors de la conférence de Madrid un principe que l'on a tous oublié, ou en tout cas que certains ont fait semblant d'oublier, c'est-à-dire la paix contre la paix. C'est-à-dire qu'on n'a pas la paix sans concession, si tant est qu'on puisse les appeler comme ça, parce qu'il s'agit finalement que de rendre les territoires occupés. Et ce principe-là, pendant longtemps, Trump l'a ignoré ou l'a oublié. Et les accords d'Abraham dont vous parliez tout à l'heure, finalement, peut-être que pour Trump, c'est très important, son office, mais en fait, les accords d'Abraham au Moyen-Orient, les gens se regardent et ricanent. On ne fait pas la paix en plus. On fait la paix avec un ennemi. Quelle valeur ont-ils ces accords d'Abraham? Alors donc aujourd'hui, vous diriez prendre la maison du voisin et vous iriez à Strasbourg faire la paix avec un Strasbourgeois, je ne comprends pas. Ils n'ont aucune valeur, ces accords, pour les principaux acteurs du conflit, à savoir les Palestiniens, les Libanais, les Syriens qui sont bombardés jour et nuit. Donc, finalement, le 7 octobre a remis tout ça sur la table. Et finalement, aujourd'hui, assez étrangement, eh bien, le président Trump, il a déjà mis le holà à l'annexion de la Cisjordanie, c'est déjà un bon point. Il a cessé la guerre à Gaza, malgré le carnage qui a eu lieu avant que les canons se pèsent. Mais il a aussi réalisé que, finalement, la violence ne fonctionnait pas dans cette région du monde. Et nous avons eu le Hezbollah relativement neutralisé, et surtout, la Syrie qui s'est débarrassée du joug des Assad. Je peux vous dire que c'est un bouleversement. La Syrie, je vous rappelle qu'au Proche-Orient, ça je vous dis que ce sont eux les acteurs principaux, il y a une devise, un slogan qui dit depuis toujours, au Moyen-Orient, il n'y a pas de guerre sans l'Égypte et pas de paix sans la Syrie. L'Égypte étant le cœur du monde arabe et l'ancienne plus importante puissance militaire, mais la Syrie était une forte une puissance régionale, mais elle avait aussi surtout une capacité de nuisance. Il fallait qu'elle soit active au concept de la paix, et d'autant plus qu'une partie de son territoire jour est occupé, à savoir le Golan. Donc, les appels, les accords d'Abraham, ne manquent pas. Donc, c'est quand même assez formidable. Bon, aujourd'hui, la situation semble, bizarrement, s'améliorer. Puisque ce régime de Bachar el-Assad, et son père avant lui, qui a été extrêmement néfaste. Parce qu'il a compté de tout temps, depuis 1973, depuis qu'il a perdu ses territoires, non pas ni sur un combat militaire de soldat à soldat, en tout bien, tout honneur, et que le meilleur gagne, non, ou alors des négociations de paix, ou que sais-je, sur des proxys, c'est-à-dire d'abord le Liban. Il s'est greffé sur le Liban et a été une véritable source pour ce petit pays. Et puis ensuite, sur sa capacité de nuisance. Je vous donne un exemple concret. Lorsque, en 2003, les Américains ont décidé d'envahir l'Irak, qui a envoyé des djihadistes en Irak? C'est le régime soi-disant laïc de Bachar el-Assad. Il a fait son pays une rampe de lancement des djihadistes pour aller rendre compliquer la tâche aux Américains, et donc il a fait envoyer tout ce qui arrivait d'Europe, mais également ceux qui étaient dans ses prisons, il les a ramassés. Je viens de finir le tournage d'un très long film, un documentaire que vous verrez au printemps prochain dans la case du siècle, qui est la case spécialisée dans les documentaires d'histoire. Et nous revenons sur ce rôle néfaste. Et c'est cette capacité de nuisance qui, finalement, est la seule force d'une Syrie qui n'a jamais voulu ni se battre pour libérer son territoire, mais voulu, à travers les Libanais, à travers la population libanaise, à travers son occupation du Liban, eh bien, garder des cartes de négociation avec les Israéliens, cartes et négociations qui ne sont jamais réellement venues. Parce que les Israéliens ne veulent pas rendre ce territoire stratégique qui est le Golan. On le sait bien finalement, en tout cas pour Bachar el-Assad et son père avant lui, l'essentiel, c'était de rester au pouvoir et finalement, peu importe l'intégrité territoriale de ce pays. Aujourd'hui donc, on a cette une guerre sanglante qui a eu lieu le 7 octobre, un conflit sans merci, un Benjamin Netanyahu en roue libre, qui a quand même frappé six pays et qui a, je ne dirais pas imposé son hégémonie. L'hégémonie était là, il l'a simplement exprimé clairement et militairement et concomitamment dans plusieurs pays à la fois. Mais l'hégémonie, elle a toujours été là. Jamais les États arabes ont eu à tout le moins la moindre puissance militaire et la moindre volonté d'ailleurs finalement. Les seuls qui voulaient vraiment se battre, c'était les Palestiniens, mais vivant sous occupation, ils n'avaient pendant longtemps plus de larmes que leur voix et des pierres. Ce qui, finalement, n'a servi à rien et qui a permis la montée en puissance, hélas, la montée en puissance du Hamas. Mais autrement, il n'y a jamais eu réellement de puissance. Ils ont tenté en 68, en 67, en 73, et c'était terminé. Donc, donc, côté libanais, on a vu un Hezbollah s'effondrer. Et côté syrien, la fin d'une dictature, un lendemain où tout semble possible. À ce jour, j'en viens là, j'étais il y a quelques jours pour la formation que j'ai reçue, mon général, mais également pour un tournage de film. Et tout semble possible. Les sanctions internationales sont en train d'être levées. La Russie, pour l'instant, se tient à carreau malgré le fait qu'elle ait joué un rôle très néfaste pendant les 14 ans de révolution qui se sont évidemment mis en guerre civile. Et une volonté réelle, même si le régime qui est aujourd'hui au pouvoir, il a encore, je me permets un peu d'autopromo, je vous invite à voir mon film qui s'appelle Série à l'épreuve du pouvoir. Je vous donnerai tous les films à la fin de la séance si vous voulez. J'ai fait un film pour Arte du Nord, où vraiment on rentre au cœur de ce nouveau régime pour peut-être comprendre qui sont-ils. Parce que vous avez à la tête de la Syrie aujourd'hui, certes, vous avez une liberté d'expression. Nous, en tant que journaliste, maintenant, on peut rentrer. J'étais forcée, morte vive par le régime précédent pour sympathie avec les missionnistes, avec la DGSE. On a montré mon dossier. J'ai toutes les qualités, normalement. Et aujourd'hui, les journalistes reviennent, les gens manifestent, les prisons ont été libérées. Certes, ça n'est tout de même pas le meilleur régime qui soit, puisque nous avons la tête de l'État, et pour au moins 5 ans, puisque c'est ce qu'il dit, il lui fait 5 ans pour organiser des élections, un ancien djihadiste. Voilà. Ancien djihadiste qui, certes, aujourd'hui, parle de liberté, dit que c'est une époque révolue, qu'à l'époque, c'est la jeunesse et l'injustice contre les Irakiens qui vont pousser à aller se battre, croiser le fer avec les Américains. Il n'empêche, l'ADN est bien là. Et les hommes l'ont aidé à remplir son injustice, son amas. Pour certains, selon nos critères à nous, des djihadistes. Certes, ils sont neutralisés, mais ils marchent tout de même sur le fil du rasoir, parce qu'il n'a que 30 000 hommes, finalement, à Zélanie, à Saint-Béchala. Il a 30 000 hommes pour tenir un pays qui est petit. Il a 30 000 hommes, mais beaucoup d'anciens miliciens qui aujourd'hui ont rejoint l'armée appartient à d'autres groupes. Des groupes certes qui ne sont pas djihadistes, mais d'autres qui l'ont été. Alors, c'est vrai que cet homme a combattu Al-Qaïda, après y avoir appartenu, il a combattu l'État islamique, il a accepté de rejoindre la coalition, ainsi que proposé le président Donald Trump, contre l'organisation terroriste État islamique. Il n'empêche que, évidemment, une partie de la population est inquiète et qu'il y a eu les massacres que vous avez pu voir. Alors, on me demande souvent, est-ce que c'est la preuve qu'on va avoir un deuxième Assad au pouvoir? Je réponds non, parce qu'après 50 ans, rappelons-nous en France, rappelons-nous de 45, quand nous avons été libérés, quel a été le sentiment d'une partie de la population contre les collabos? Donc, évidemment, ça ne justifie pas, mais on aurait pu s'attendre à un véritable bain de sang. Il a été évité. Il y a eu des débordements graves et apparemment c'est régulé. Il n'empêche que le territoire est morcelé, morcelé en ce sens que, eh bien, vous avez dans le nord-est les Kurdes qui ont signé un accord pour rejoindre l'État central, mais qui aujourd'hui avancent par culons. Ils sont en plein battus par les Européens, je ne préciserai pas quel pays. Par contre, les Américains leur ont dit qu'ils devaient retourner dans le giron d'État. Et les Kurdes sont évidemment à cause de ça pas très contents. Mais est-ce que ça va se faire ou pas? Ils sont formés et ils détiennent le pétrole de la Syrie. Donc c'est la première grande interrogation. La seconde, c'est le Sud. Je l'ai trouvé pas loin de la ville de Deraa il y a exactement 6 jours. On a été pendant 3 heures sous des bombardements israéliens intenses. On a eu 13 morts civils. Et mon propre fait opérateur, c'est-à-dire mon camarade, nous a fait une crise de panique parce qu'il n'avait pas tellement l'habitude. Donc, réellement, les Israéliens, depuis la chute de Bachar, ne cessent de grignoter du territoire, ne vont pas rendre. Ils ont déjà oublié le territoire de 1973, et là, ils ont rajouté 4 ou 5 zones qui sont occupées et ne veulent pas permettre à l'armée syrienne de se déployer dans ce dont ils semblent vouloir faire une zone tampon. Je ne sais pas si vous visualisez la carte, mais en tout cas, le sud de la Syrie donne sur le nord d'Israël. Et donc, par conséquent, nous avons vu ça de très près, où de simples paysans qui faisaient être leur troupeau ont dû se replier, certains sont morts. Donc, Israël veut, en étant aidé par les Druzes, parce qu'il y a une relation particulière, privilégiée entre les Druzes israéliens et le reste de la population d'Israël, et par conséquent, les Druzes de Syrie, qui ne font pas confiance à cet ancien djihadiste, là encore, joue avec le feu en étant un coup avec Israël, un coup en tout cas contre l'État central. Troisième risque, le moins grave, c'est celui des Alaouites sur le littoral, donc là on est à l'ouest de la Syrie, qui ont tenté de fomenter des troubles, et ce qui a été réprimé dans le sang, et où les civils n'ont pas été épargnés au début de cette année. En mars, oui, un partout, c'est là décidé, en mars-avril dernier. Nous y étions également et c'était terriblement douloureux pour cette population alaouite qui est diabolisée, montrée du doigt à cause du fait que le président Bachar el-Assad et son père sont issus de cette communauté. Donc, je pense que j'ai pris trop de temps, c'est ça? Je vais bientôt conclure. Donc, mon interrogation aujourd'hui, c'est la suivante. Nous avons évidemment les massacres du 7 octobre et les massacres à Gaza qui ont été douloureux pour ces deux populations, mais qui ont prouvé définitivement qu'il ne pouvait pas y avoir de paix sans concession. Ça a été, dans le malheur des uns et des autres, un point très positif. Et certains Israéliens eux-mêmes le reconnaissent. Et les Israéliens, les Palestiniens ont compris qu'ils ont beau ne pas être responsables de ce qui s'est passé devant durant la Deuxième Guerre, ils ont beau ne pas être responsables et vouloir récupérer leur terre. Aujourd'hui, il y a 7 millions d'Israéliens, ils ne les jetteront pas à la mer, ils ne les renverront pas en Europe centrale ou ailleurs. Idem pour les Israéliens, ils ont compris que les Palestiniens étaient là et à moins de tous les tous, il fallait qu'un jour, ils tombent d'accord et qu'ils finissent par avoir la paix parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, cependant, ceux qui sont capables, ceux qui sont légitimes et qui sont assez courageux pour le faire, il n'y en a pas. Côté palestinien, vous avez le fameux Mandela palestinien qui est en prison depuis 20 ans. Et côté israélien, nous avons rencontré certaines fois qui ont cette envie-là, mais n'ont pas la légitimité militaire qu'avait un rabbin, par exemple. Et puis la société, c'est beaucoup, la gauche, elle s'est droitisée. La gauche israélienne n'existe quasiment plus. Donc ça, c'est le premier point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation, c'est la Syrie, je finirai sur le Liban, c'est la Syrie, un régime dictatorial, dangereux pour l'Occident. Et ça, j'étais la première journaliste à rentrer en Syrie lors du début de la révolution. Et j'avais mis en garde de la fin 2011 sur le risque que le régime, ce crime soit exporté sur notre territoire via des djihadistes, justement. On était début 2012 et on a été frappé au cœur en novembre 2015, rappelez-vous. Donc, voilà, aujourd'hui, un régime qui dit on ne veut plus avoir de problème avec quoi que ce soit. On veut être en paix avec tout le monde. Le président interdit du Syrien à Moscou, à Washington, à la Maison Blanche, les sanctions vont être levées, on se balade en Syrie, on parle, on rentre dans les églises, on rentre dans les synagogues, c'est un critère très chez nous, on va dire, mais l'alcool est encore servi, les femmes font ce qu'elles veulent. Alors oui, c'est un homme qui met bien sûr l'inquiétude, malgré ses sourires, malgré le fait qu'il a été reboutiqué attaqué, notamment par l'ancien ambassadeur des États-Unis à Damas, via une ONG britannique. C'est un peu le secret de cette transformation incroyable. Il faut quand même garder l'œil sur cet homme, parce que s'il parle beaucoup de liberté, il ne vient jamais de démocratie. Et donc, il a pris le pouvoir, il a libéré les gens, mais dans 5 ans, est-ce qu'il va rendre le pouvoir, rendre les clés, rendre son tablier pour permettre à un scrutin libre et indépendant de permettre aux Syriens de choisir leur futur dirigeant? Et enfin, reste la question libanaise. Cette croissance chiite qui avait été dénoncée au début des années 2000 par le roi Hussein de Jordanie, et tout le monde l'avait regardé de travers en disant « Mais de quoi parle-t-il » Il a existé. De Téhéran à Beyrouth, en passant par l'Irak et la Syrie, ce croissant a bien existé. Il a été tout puissant. Les proxys iraniens étaient là pour protéger les remparts de cet empire perse, tel qu'il est fantasmé par les Mollahs. Le Hezbollah a été la chair en canon des Iraniens au sud du Liban. Les Syriens ont été aussi les proxys dans la région de Téhéran. Aujourd'hui, le Hezbollah est laminé. La Syrie est complètement interdite aux Iraniens. Pourtant, il y a au Liban, dans ce pays qui est très cher à la France, une France telle son imagination, son sens de l'imagination. Il faudrait. Aujourd'hui, vous avez un envoyé américain qui dit Fred Spico, c'est terminé. On n'en veut plus. Que la Syrie et le Liban deviennent un seul pays. Ah bon? Non, mais ce n'est pas possible. En réalité, ça n'est pas possible. Vous n'avez pas imposé des frontières et des identités aux gens pour que 100 ans plus tard, vous veniez leur dire de vivre ensemble. Surtout que Syrie et Libanais ne sont pas finalement ne sont pas si proches. Et que l'exceptionnalité libanaise, qui fait qu'il y a un président qui est chrétien, c'est un pays très différent, le Liban finalement, dans cette région, multiconfessionnel, et bien aujourd'hui, ce Liban-là, qui est une encore, pourquoi? Alors que tout cet axe s'est effondré, bizarrement, au Liban, qui était une démocratie, qui l'est toujours, imparfaite, certes, mais qui est une démocratie, soutenue par la France. Aujourd'hui, elle est totalisée à l'idée de retomber dans la guerre civile et de ce fait ne parvient pas à désarmer le Hezbollah. Alors que partout ailleurs, cet axe iranien s'est effondré au quasiment. Voilà les interrogations aujourd'hui que je voulais partager avec vous sur cette possibilité de faire ou pas la paix dans cette région du monde, parce que de toute manière, si un jour cette paix s'installe, ça ne sera que bénéfique pour le reste du monde et pour nous.